marcher. Non, ça ne marche pas. Bon. Alors, le premier élément, c'est d'abord une foi qui œuvre. Ensuite, un amour qui travaille. Et enfin, une espérance qui tient ferme. Et bon, ces trois éléments constitueront notre plan. Alors, tout d'abord, une foi qui œuvre. L'apôtre Paul commence par là son diagnostic spirituel. Alors, je cite, « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. » Alors, voyons d'abord ce que signifie cette expression, l'œuvre de la foi, avant d'essayer d'en tirer des applications pour nous. L'œuvre de la foi. Pour Paul, un chrétien en bonne forme a la foi. Alors, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Pour être un croyant, il faut croire. Donc, jusque-là, c'est très logique. Mais croire en qui et croire comment? Croire en qui? La réponse est évidente. D'ailleurs, l'apôtre Paul la donne dès le premier verset de cette épître. La lettre est adressée à l'église de Thessalonique, qui, je cite, « est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ ». Donc c'est bien la foi dans le Dieu trinitaire dont il est question ici, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant cité au verset 5 et 6 de ce chapitre. Voilà pour en qui croire. Voyons maintenant comment les Thessaloniciens croient. Paul salue la foi des Thessaloniciens parce qu'elle l'œuvre. Le terme employé évoque l'action, la réalisation. En clair, Paul est en train de dire que les Thessaloniciens ont une foi agissante. Paul souligne le caractère actif de la foi des Thessaloniciens, car ce caractère actif est essentiel. En effet, il manifeste la réalité de la foi des Thessaloniciens. Car la véritable foi engendre un changement de vie, parfois spectaculaire. Dimanche dernier, nous avons eu la visite d'un frère de l'église de Meaux, qui s'appelle Christian, et il a rendu son témoignage à l'issue du repas fraternel que nous avons eu. Il nous a raconté en fait comment la foi a changé sa vie, et c'était vraiment formidable de voir cette foi à l'œuvre, de voir que la haine a fait place à l'amour dans sa vie, de voir aussi sa délivrance progressive de toutes les addictions. Il nous a donc relaté ce processus d'une foi à l'œuvre. La foi change la vie du croyant. Elle transforme sa manière de penser, d'agir. La foi produit des œuvres concrètes. Alors attention, ne confondons pas œuvre de la foi et salut par les œuvres. Le salut s'obtient uniquement par la foi, indépendamment des œuvres. Je n'ai rien à faire pour être sauvé, sinon de croire en Christ. Et Paul ne remet pas en cause cela, mais il souligne ici l'aspect actif de la foi pour dire que le salut engendre un changement de conduite. Non seulement cela ne s'oppose pas au salut par la foi, mais il le complète, puisque nous venons de le dire, les œuvres attestent la réalité de la foi. Si l'on croit, on œuvre, on s'efforce de pratiquer la volonté de Dieu. Alors, quelles applications tirer de cela? Bien, tout d'abord, posons-nous la question. Quelles œuvres produit notre foi? Est-ce que cela se voit que Jésus est désormais le maître de ma vie? Notre manière de vivre diffère-t-elle de celle de nos voisins, collègues, amis non chrétiens? Alors là encore, attention, il ne s'agit pas de prétendre à la perfection. Nous désobéissons parfois aux commandements de Dieu. Ce qui est en jeu ici, c'est le désir sincère le désir sincère d'obéir au Seigneur. C'est la volonté de conformer toute sa vie à la loi du Christ. Seconde application, la foi n'est pas une froide adhésion intellectuelle à une doctrine. La foi n'est pas un simple accord intellectuel avec l'enseignement du Christ. C'est une rencontre avec une personne, Jésus-Christ, une décision de vivre avec lui. La foi engage le cœur, tout notre être. C'est aussi une alliance qui engage à vie, un peu comme un mariage. Enfin, dernière application, la foi n'est pas simplement une vague croyance. Elle est bien plus forte. La foi est inséparable d'une profonde confiance. Ce n'est pas seulement croire à des récits, à des paroles, c'est aussi faire confiance à Jésus-Christ. Au point de lui abandonner toute notre existence et d'œuvrer. Il n'existe donc pas de chrétien de naissance, pas plus qu'il existe de chrétien de tradition. Le seul chrétien est celui dont la foi œuvre. Alors passons au second signe d'une bonne santé spirituelle. Il est lié au premier. Car la foi œuvre notamment par un amour qui travaille. Et c'est notre seconde partie. Paul déclare, nous nous rappelons sans cesse le travail de votre amour. Or là encore, voyons ce qu'il faut entendre par cette expression avant d'essayer d'en tirer des applications. Que signifie le travail de votre amour? Pour tenter de comprendre cette expression, il nous faut répondre à trois questions. D'abord, que signifie le verbe aimer dans la bouche de l'apôtre Paul? Ensuite, qui doit-on aimer? Et enfin, comment doit-on aimer? Alors d'abord, que signifie aimer? Paul utilise un terme grec qui est propre au vocabulaire chrétien. Agapé. L'amour chrétien se distingue du sentiment amoureux, mais il n'est pas non plus une simple amitié. L'amour chrétien, c'est une disposition de cœur tournée vers l'autre. C'est une volonté de voir l'autre comme étant infiniment précieux et donc de rechercher ce qui est bon pour lui. C'est aussi un amour totalement désintéressé. Donc voilà pour ce qu'il faut entendre par aimer. Ensuite, qui doit-on aimer? Alors Paul ne précise pas qui les Thessaloniciens aiment, car aucune précision n'est nécessaire. Le chrétien doit aimer. Aimer Dieu, en premier lieu, mais conjointement, il doit aimer l'autre, le prochain. Alors cela commence par les frères et sœurs de l'Église. L'Église est le premier cercle où s'exerce l'amour. Mais il le dépasse. Au chapitre 3 de cette même épître, verset 12, Paul prie, je cite, « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. » Le chrétien aime aussi ceux qui sont en dehors de l'Église, y compris ses ennemis, y compris ceux qui le persécutent. Enfin, comment doit-on aimer? Paul précise que l'amour chrétien doit travailler. Alors là, pour le coup, le terme employé est très fort. Il s'agit de se mettre en peine, de fournir un travail pénible. Le terme évoque un labeur ardu, même épuisant. Car l'amour chrétien ne va pas de soi. L'amour chrétien n'est pas une promenade de santé. Il mobilise toute l'énergie du croyant et il coûte parfois cher. Quelles applications tirer de cela? Vivons-nous l'amour? Depuis notre conversion avons-nous le souci de l'intérêt des autres? Alors comment aimer concrètement? Au sein de l'Église, tout d'abord. Par exemple, en invitant pour son anniversaire un frère au restaurant. C'est une très bonne idée. En aidant les frères et sœurs, en les conseillant selon l'Évangile, en les édifiant par la parole, en leur donnant aussi l'exemple d'une vie soumise à Christ, et le cas échéant, en les avertissant avec douceur lorsqu'ils s'égarent. En dehors de l'Église ensuite, comment aimer ceux qui nous entourent? Eh bien, en premier lieu, en proclamant l'Évangile. L'amour des Thessaloniciens a permis, je cite, que leur foi retentisse en Macédoine, en Achaïe et partout. C'est ce que Paul rappelle au verset 8 de ce chapitre 1. Alors, sommes-nous conscients que notre premier devoir d'amour envers les autres est de leur parler de Jésus-Christ? En parler en les invitant à lire la Bible, en parler en racontant aussi ce que Dieu a fait dans nos vies, en parler en vivant des vies transformées parmi nos amis non chrétiens. Dernière application, l'amour chrétien, nous l'avons vu, est un amour qui coûte, qui se met en peine. Pratiquons-nous un tel amour? À l'égard de ceux qui nous sont proches, mais aussi à l'égard de ceux que nous connaissons à peine, et même à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal. À quel sacrifice sommes-nous prêts par amour pour les autres? Passons au dernier signe d'une bonne santé spirituelle. Après une foi qui œuvre, un amour qui travaille, voyons pour finir une espérance qui tient ferme. L'apôtre Paul ajoute finalement « Nous nous rappelons sans cesse la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors commençons par détailler cette espérance des Thessaloniciens. Voyons d'abord son objet avant d'en voir sa nature. Alors d'abord, en quoi, en qui espèrent les Thessaloniciens? Le texte nous le dit. Les chrétiens de Thessalonique ont placé leur espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les chrétiens partagent avec eux cette espérance, celle de voir revenir bientôt le Christ en gloire et de recevoir ce qu'il nous a promis, la vie éternelle, à ses côtés. Ceux qui aiment Christ attendent son retour. Et ils l'attendent ardemment. Et nous en arrivons à la nature de cette espérance. L'espérance des Thessaloniciens est à la fois certaine et ferme. Elle est certaine d'abord. Alors, le terme espérance est trompeur pour nous occidentaux du 21e siècle. Pour nous, espérer, c'est plutôt incertain. Ça relève du souhait. J'espère que la météo va s'améliorer. Dans la parole, l'espérance n'a aucun caractère d'incertitude. Elle est sûre et certaine, mais sa réalisation reste à venir. Donc, par exemple, un fonctionnaire de l'époque biblique espère son chèque de fin de mois à l'issue du mois de travail qu'il va accomplir. Il sait qu'il va toucher son salaire, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore reçu. Donc, il espère son chèque de fin de mois. Pour Paul, son espérance en Christ ne fait aucun doute. Il déclare « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Eh bien, cette même certitude est partagée par les Thessaloniciens. Et cette certitude est aussi ferme. L'espérance des Thessaloniciens est endurante, persévérante. Ils ont prouvé la fermeté de leur espérance. D'abord, le temps ne l'a pas émoussé. Les premiers temps de la vie chrétienne ont fait place à la routine. L'apôtre Paul et son équipe ont dû les laisser. Et pourtant, l'espérance des Thessaloniciens n'a pas changé. Plus encore, leur espérance reste ferme en dépit des circonstances. Et quelles circonstances ? Nous l'avons dit, l'église de Thessalonique connaît la persécution. Verset 6 du chapitre 1, ils ont accueilli la parole au milieu de grandes difficultés. Et cette persécution continue, elle s'est même sans doute intensifiée. Mais même au sein de l'épreuve, leur espérance tient ferme. Leur espérance tient ferme et c'est heureux. C'est heureux car cela manifeste leur appartenance au Seigneur. Alors les réformateurs parlaient de la persévérance des saints. L'idée que les vrais croyants resteront fermes dans leur espérance jusqu'à la fin. Ceux dont la foi est authentique sont ceux dont le Seigneur lui-même garantit l'espérance dans les cieux et que le Seigneur lui-même rend capable, par le Saint-Esprit, de persévérer jusqu'à la fin. Alors, quelles applications pour nous ? Première application, sur quoi se fonde notre espérance ? Qu'espérons-nous ? Quelles sont nos attentes ? Est-ce que le retour du Seigneur fait partie de nos attentes ? Ou est-ce que nos attentes se limitent uniquement à ce monde qui passe ? En tant qu'Église aussi. En tant qu'Église, quelles sont nos attentes ? Accroissement du nombre de membres ? Augmentation des collectes ? Ou que le Seigneur revienne ? Pourquoi on évangélise ? Par devoir ? Ou parce que le prochain retour de Jésus-Christ nous presse de proclamer l'Évangile, conscient de l'urgence de la situation ? Pourquoi la prédication ? Pourquoi les ateliers bibliques du jeudi soir ? Par habitude ? Ou parce que l'imminence du retour du Christ nous pousse à nous préparer ? On veut mieux connaître le roi qui vient. On veut qu'il nous trouve prêts. Seconde application, notre espérance en Christ est-elle ferme ? Ou certaines choses peuvent-elles l'entamer ? Le temps, les souffrances, les déceptions ? Prenons exemple sur les Thessaloniciens et partageons leur ferme attente du Christ. Enfin, dernière application. Pour autant, l'espérance n'est pas une fuite en avant. L'espérance ne doit pas nous démobiliser. Parfois, certains semblent se réfugier dans l'espérance pour fuir la réalité. Les yeux braqués sur l'avenir, sur le retour du Seigneur, semblent les empêcher de s'engager au présent. Or, Paul juxtapose un amour qui travaille avec une espérance qui tient ferme. L'espérance chrétienne n'est pas une fuite devant les responsabilités terrestres. Le chrétien œuvre ici-bas pour la justice et pour l'amour. Justement, parce que l'espérance donne tout son sens à son engagement au nom du Seigneur. Alors il est temps de conclure. Une foi qui œuvre, un amour qui travaille et une espérance qui tient ferme. Alors c'est un beau programme pour cette rentrée scolaire. Mais n'est-il pas un peu trop chargé ? Après tout, un seul de ces ingrédients, ce serait déjà pas mal. Je vais prendre la foi. Pour ce qui est de l'amour des autres, je vais justement laisser ça pour les autres. Où je vais prendre l'amour. Après tout, peu importe ce en quoi je crois, peu importe si je crois, l'important c'est d'aimer. Peut-être que l'apôtre Paul s'est un peu enflammé dans ce verset, en mettant ensemble foi, amour, espérance. Eh bien non. Eh bien non, il ne s'est pas enflammé puisqu'il récidive au chapitre 5, verset 8. Je cite, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. » Alors, peut-être que cette triple exigence n'est valable que pour les Thessaloniciens. Après tout, on sait bien que l'église de Thessalonique est un peu la première de la classe. Alors Paul se montre ambitieux envers eux, c'est une bonne pédagogie. Mais pour nous, pour les autres, on ne peut pas en attendre autant. Eh bien non, parce qu'il se trouve que la triade foi, amour, espérance se retrouve en Galates, en Éphésiens, en Romains, en Colossiens, et même dans l'église laborieuse de Corinthe. Alors il faut nous faire une raison. La foi, l'amour, l'espérance sont tous les trois essentiels à notre santé spirituelle. Ce sont trois vertus fondamentales de la vie chrétienne. Alors, bon, c'est bien beau de savoir à quoi correspond la bonne santé spirituelle, mais il faudrait alors savoir comment faire pour avoir cette bonne santé. Comment faire pour avoir cette foi qui œuvre, cet amour qui travaille, cette espérance qui tient ferme? Eh bien, Paul nous donne la réponse dans ce verset. Paul déclare dans ce verset, « Nous nous rappelons sans cesse votre foi, votre amour, votre espérance, devant Dieu, notre Père. » En fait, Paul n'est pas en train d'adresser des louanges aux Thessaloniciens. Non, il est en train de prier, il parle à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il adresse des louanges. C'est Dieu qu'il remercie pour la foi, l'amour et l'espérance des Thessaloniciens. Car c'est Dieu qui est à l'œuvre dans la vie des Thessaloniciens. Et c'est ce même Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre vie à nous, chrétiens de la Garenne. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné la foi, l'amour et l'espérance. Merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que notre santé spirituelle dépend de toi. Veuille nous fortifier, Seigneur. Veuille rendre notre foi agissante, productive de belles œuvres. Que notre foi transforme toujours davantage nos vies. De même, veuille rendre notre amour pour toi et pour les autres fructueux, laborieux. Que notre amour se mette en peine pour toi et pour notre prochain. Enfin, veuille nous aider à toujours garder les yeux sur l'espérance qui est la nôtre. Que nous ayons toujours les yeux fixés vers ce jour prochain où ton Fils reviendra en gloire. Que le temps qui passe, que les épreuves qui nous assaillent ne nous voilent pas notre espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.